France Inter. Le 6-9 du week-end. Éric Delvaux.
Bonjour Nicole Bacharan.
Bonjour.
Historienne, politologue, spécialiste des États-Unis. Question ce matin sur le coup de mou de la campagne de Donald Trump, le passage à vide du candidat républicain à un peu plus de 4 mois de cette élection. Ce sera le 3 novembre, avec des gradins largement clairsemés, des livres qui révèlent soit les failles psychologiques du président ou bien son inaptitude à la fonction, ajouter les mauvais chiffres du chômage et le déficit américain, déficit du commerce qui se creuse. Les sondages qui donnent toujours une large avance à son rival démocrate Joe Biden. Et vous avez là l'essentiel du tableau qui illustre cette mauvaise séquence. Nicole Bacharan, on va d'abord détailler dans un instant tout ça. D'abord, ce qu'il faudrait préciser à 4 mois de cette élection, c'est que rien n'est encore joué.
Non, rien n'est encore joué. On a raison de commencer comme ça. Là, à l'heure actuelle, ça se présente pas bien pour Donald Trump. Il a entre 10 et 14 points de retard dans les sondages sur Joe Biden. Mais exactement à la même époque, en 2016, Hillary Clinton avait une avance de 10 à 14 points sur Donald Trump, qui a finalement été élu. Donc ça ne veut pas dire que tout soit pareil, mais ça veut dire qu'on n'a pas le résultat de l'élection.
Mais qu'est-ce qui pourrait renverser la tendance ?
Je pense que l'essentiel pour Donald Trump sera d'être capable de convaincre à l'automne qu'il est le mieux placé pour relancer l'économie. Il était prêt à faire campagne sur une économie florissante. Cet argument-là, évidemment, lui a été retiré. Mais quand on regarde des sondages plus précis, on voit que sur l'économie, les Américains ont tendance à lui faire plus confiance à lui qu'à Joe Biden. Joe Biden, il a une meilleure note sur tous les autres critères. Sur l'économie, Donald Trump est un peu mieux placé. Donc, à mon avis, ce sera le facteur décisif.
Est-ce qu'on sait comment Donald Trump, qui aime tout diriger et qui n'aime pas la contradiction, qui aime tout dominer, comment est-ce qu'il vit personnellement cette mauvaise passe? Est-ce qu'il a changé déjà son équipe de campagne, par exemple?
Il mène des purges dans son staff sans arrêt. Alors là, au sommet de l'équipe de campagne, il n'y a pas eu encore un grand balai, mais ça pourrait bien arriver. Tout ce qu'on sait, c'est qu'il est à la fois très déprimé et très furieux, et que son staff est absolument exténué. Mais personne n'arrive à le canaliser vers des attitudes qui, disons, seraient un peu plus consensuelles et pourraient élargir un peu sa base électorale. Il déteste qu'on cherche à le canaliser, il ne croit qu'à son instinct, et son instinct tel qu'il le révèle, on parlera peut-être ensemble de son dernier meeting, son unique meeting d'ailleurs du moment, eh bien, son instinct, c'est de vraiment souder sa base autour des questions d'avortement, d'immigration, de sécurité.
Les meetings de Donald Trump, d'abord, il fait le show. Il a même fait une spécialité de démentir les rumeurs sur son état de santé. On l'a vu en buvant un verre d'eau ou descendant une estrade en mauvaise posture. Il a passé pas mal de temps à convaincre. Et finalement, on retient surtout ça de ces meetings aujourd'hui.
Oui, c'est vrai. Et on retient, je crois, 3 choses de ce meeting. D'abord, il voulait faire un grand meeting.
C'était à Tucson.
Et il n'y avait pas grand monde. Voilà. Et donc ça a été une grosse claque.
Oui.
Ensuite, on retient cette espèce de numéro de clown, il faut bien le dire, où il s'imite lui-même ayant du mal à descendre, parce que on a vu qu'il avait du mal à descendre une rampe.
Il dit que c'est à cause de ses chaussures en cuir qui faisaient glisser.
La rampe était glissante, etc. Ce qui est absolument passionnant, mais il faut vraiment avoir un certain sens de l'humour.
Le chausseur va se faire virer.
Voilà, exactement. Mais par ailleurs, dans ce meeting, il y avait même pas un sous-texte, il y avait des points de vue d'un racisme absolument
racisme,
incroyable.
Évidemment les immigrés, mais les Chinois, les Mexicains.
Voilà, les Chinois, les Mexicains.
Et puis, pas mal de messages anti-avortement pour conforter sa base.
Exactement. Alors les messages anti-avortement, ils sont pas subtils. Maintenant, il parle, il est pas le seul. Ce sont des slogans qui circulent dans la mouvance très vigoureuse anti-avortement. Il parle d'exécution de bébés à la naissance.
Avant, il y avait pour condamner la politique que souhaite
Joe
mener
Biden,
son rival.
Ça va être les exécutions de bébés à la naissance. Voilà, donc, on éliminerait les handicapés. Enfin, il est dans un espèce de fantasme, mais qui fonctionne et qui répand la peur. Et c'est bien sûr là-dessus qui compte dans un certain électorat.
Mais par rapport au meeting qu'il y avait eu en 2016, par exemple, il s'est complètement raidi, on va dire.
Je pense qu'il a perdu plusieurs choses. Bon, d'abord, c'est quelqu'un qui a découvert en 2016 qu'il adorait faire campagne. C'était nouveau pour lui. Et le fait d'être devant un public adorateur pendant près de 2 heures et de sauter du coq à l'âne, de questions politiques à questions, disons, d'humour, à des attaques très virulentes, mais très drôles, peuvent penser certains, contre des adversaires. Là, il n'a plus ce public, il n'a plus cette espèce d'adrénaline qui lui revenait. Et puis, en plus, moi, alors, je trouve que ce qu'il a perdu le plus, je ne sais pas comment vous le ressentez, vous, c'est qu'il ne choque plus. En 2016, c'était nouveau, c'était transgressif. Il y avait des gens qui adoraient ça parce que, ah oui, lui dit les choses, il parle comme nous, etc. Je vous avoue qu'aujourd'hui, je trouve que tout ça, qu'on apprécie ou non, c'est usé, c'est éculé.
Et ben, pas tant oui, que ça quand c'est sur Twitter. Twitter a retiré 3 ou 4 de ses messages très récemment, enfin dans l'année écoulée, je crois, tellement il manquait de décence ou étaient carrément les propos dans des idéologies haineuses. Il ne comprend pas ça. Qu'on puisse, il parle de censure.
Mais il parle de censure et sur le fond, il n'a pas totalement tort. Parce que, comment dire, Twitter joue sur le fait qu'il ne serait qu'un tuyau qui transmet sans aucune responsabilité éditoriale. Or, en fait, Twitter retire beaucoup de messages. Donald Trump est beaucoup moins censuré que beaucoup d'autres. Donc, ça se, là, sur le fond, quand le président des États-Unis dit « quand les pillages commencent, les tirs commencent », c'est une menace, c'est le goût de la violence, c'est ce que reproche Twitter, mais en même temps, c'est une information. Donc, le rapport avec les réseaux sociaux qui ont terriblement besoin de Donald Trump qui a terriblement besoin des réseaux sociaux, il y a quelque chose de très ambigu, parce que fondamentalement, soit on est un média, vous savez ça par cœur, avec une responsabilité vis-à-vis des contenus.
Et une modération.
Soit on a, si on n'est pas ça, alors la liberté d'expression, c'est le juge.
Et la liberté d'expression aux États-Unis, elle est dans la Constitution, donc
elle est très très large.
Elle est très large.
Pas 100%, mais elle est très large.
Alors il faut expliquer aussi ce que Donald Trump menace comme représailles contre Twitter. Enfin, je n'ai pas bien compris quelle sorte de représailles Donald Trump pourrait envisager contre Twitter. C'est la section 230. Enfin, c'est assez complexe.
Exactement. Cette section 230, c'est celle que les grandes firmes, les GAFA de la Silicon Valley ont invoqué pour être protégés des responsabilités des médias. C'est-à-dire ils ne sont pas responsables des contenus. Sauf ce qu'on appelle la décence aux États-Unis. C'est-à-dire ils ne doivent pas diffuser des contenus d'ultra-violence et de pornographie. Sachant que la pornographie aux États-Unis, les seins nus, ça suffit. Hein,
on est dans la pornographie. Ça commence très tôt, la pornographie. Là-bas.
Voilà, ça commence très très tôt, très très vite. Mais en dehors de ça, ils ne sont pas responsables des contenus. Or, on voit bien que ça ne peut pas être si simple.
C'est tout le débat en France aussi sur la régulation des contenus, quel que soit en France ou aux États-Unis. Enfin, c'est un débat complexe. Où commence l'interdiction? Enfin, on sait où ça commence, mais on ne sait pas très bien où ça le finit. Notamment, c'est un autre débat. Patricia.
Oui, vous parliez tout à l'heure, Nicole Bacharan, de l'économie, mais il y a aussi l'épidémie qui risque fort de se prolonger jusqu'à l'automne. On a l'impression que le masque devient presque un signe politique, le fait d'en porter un ou pas. Ça aussi, ça peut lui nuire.
Mais vous avez complètement raison. Le masque est devenu un signe politique. On est dans quelque chose de fondamentalement absurde, puisque Donald Trump a projeté... Pardon. J'en tousse.
On va vous apporter un verre d'eau ou un thé, s'il vous plaît.
Un verre d'eau serait génial. Donald Trump a projeté l'idée que porter un masque, c'était pas viril. C'était peureux, c'était craintif, et pire que ça, c'était démocrate. Et donc, ses supporters, les plus décidés en tout cas, ne veulent pas porter de masque et vont partout clamant à la liberté constitutionnelle, les voies de Dieu qui seules décident si vous allez vivre ou mourir. Mais en attendant, l'épidémie n'est pas du tout contrôlée.
Nicole Bacharan. Et puis, il y a les livres. Deux livres sortis coup sur coup, dont le plus récent est signé de sa nièce Mary Trump. On va dire que c'est une spécialiste des questions en psychologie. Et elle apporte un regard critique, non seulement sur Donald Trump, mais sur l'ensemble de la famille Trump. Elle explique les failles psychologiques de Donald Trump. On va voir quelles conséquences ça a chez Trump, mais les failles psychologiques de la famille Trump, c'est quoi ?
Alors, le livre de Mary Trump, il n'est pas encore sorti, mais on a quand même pas mal d'extraits ou de points de vue qui passent. La Maison Blanche cherche à l'interdire. Elle explique, et c'est une femme qui a toujours été très discrète, c'est la première fois qu'elle parle publiquement. Elle est psychologue, très diplômée, très expérimentée. Et donc, ces failles de la famille Trump, ça partirait d'un père, le père de Donald Trump.
Ah, le grand-père de la fille.
Voilà. Je vais situer par rapport à Donald.
Vous avez raison.
Vous m'en voulez pas. Donc, le père de Donald Trump, un homme d'une extrême brutalité, mettant ses enfants sous une extrême pression, la mère très distante, très froide, ne protégeant pas ou ne pouvant pas protéger ses enfants, une femme, semble-t-il, plutôt dépressive et lointaine. Et les fils, donc le fils aîné, Fred, père de la jeune femme qui écrit.
Frère de Donald Trump.
Voilà, exactement. Et Donald Trump, dans une espèce de rivalité très toxique. Et finalement, le frère aîné est mort d'alcoolisme à l'âge de 41 ans. Et Mary Trump, donc, qui écrit ce livre, nièce de Donald Trump, a eu affaire à Donald Trump dans des affaires d'héritage. Donc, on est mal placé pour en juger, mais en tout cas, on ressent que ça a été extrêmement violent.
Et ça, pour Donald Trump, laisser paraître publiquement des supposées failles psychologiques de sa personne, c'est presque pire que le bouquin de Bolton qui le déclarait incompétent.
Oui, je pense que c'est bien pire et qu'il le vit bien plus mal. Parce qu'au fond, le livre de Bolton détaille tout ce qu'on savait déjà. Il ne nous apprend rien. Il rajoute des détails au portrait et il nous montre un Donald Trump ignorant, incohérent et ne pensant qu'à sa réélection et surtout corrompu, demandant toutes sortes d'échanges avec des autocrates. Il préfère les autocrates, il déteste les Européens et il promet des tas de choses, notamment en échange de la justice américaine, comme si elle lui appartenait, à Erdogan, à Xi Jinping, etc., etc. Bon, c'est pas nouveau. C'est pas très agréable pour lui, mais c'est pas nouveau. Mary Trump, elle va chercher dans un domaine qu'il est. C'est-à-dire des gens qui vont fouiller dans sa psychologie, dans son histoire familiale, dans la façade qu'il essaye de présenter, et qui forcément va le décrire comme quelqu'un qui a des fragilités, quelles qu'elles soient. Et ça, c'est quelque chose qu'il ne supporte pas. Il a un ego, on le sait, surdimensionné, mais extrêmement fragile. Et dès qu'on l'égratigne, il tire à la bazooka. Vous voyez ce que je veux dire. Donc le livre n'est pas encore sorti, il y a une bataille juridique fort compliquée là-dessus.
Finalement, la justice a l'air de dire qu'elle s'est jugée incompétente pour interdire le livre tout récemment.
Oui, le premier arrêt est celui-là, puisque, bon, je résume très rapidement. Dans cette sombre affaire d'héritage, Mary Trump a signé un non-disclosure, un accord de non-divulgation de la manière dont s'est résolu l'héritage. Et donc, à la base, avec ça, Donald Trump veut interdire tout le livre. Mais devant un juge, à mon avis, ça ne tient pas.
Parce qu'aussi, il y a la liberté d'expression qui est, elle aussi, dans la Constitution américaine.
Exactement. L'empêcher d'écrire ce qu'elle veut sur sa famille me paraît fort difficile, même si elle a signé un accord il y a longtemps.
On va rappeler aussi le sous-titre du livre de Mary Trump, où elle parle d'homme le plus dangereux du monde.
Oui, alors, et le problème, c'est qu'elle sait bien de quoi elle parle. Et bon, j'ai envie de dire, Donald Trump n'étant pas une personnalité compliqué. On voit tous à peu près comment il fonctionne. Mais au fond, sur le fond, le plus intéressant, c'est de savoir pourquoi il y a 63 millions d'Américains en 2016 qui ont voté pour lui, dont une bonne partie continue à le soutenir. Et le problème n'est pas du tout qu'il soit sympathique ou antipathique, démocrate ou républicain, mais c'est qu'il est hors cadre. Il est hors cadre démocratique. Et peut-être que ce que Mary Trump veut dire, c'est qu'outre le caractère plutôt désagréable, c'est quelqu'un qui menace les institutions et les fondements de la démocratie américaine.
Mais s'il perdait, ça pourrait aussi avoir des conséquences qu'on n'imagine même pas.
On est très inquiet sur la manière dont il accepterait ou non une défaite.
De passer la main.
Voilà, le 3 novembre, l'élection a lieu. Il est peu probable qu'on ait les résultats le jour même, parce qu'il va y avoir des votes par correspondance avec cette épidémie. Ça risque de passer d'un vainqueur à l'autre pendant que l'on décompte. Et en tout cas, jusqu'au 20 janvier, Donald Trump reste président. Il a un tempérament qui fait que ce qu'il méprise le plus au monde, c'est le perdant, le loser, le minable. Va-t-il l'accepter s'il perd? C'est pas dit du tout encore. Va-t-il au contraire répandre la rumeur qu'il y a plein de votes illégaux?
On peut faire une parenthèse sur les votes par correspondance, oui. Par exemple. Alors, c'est un gros sujet aux États-Unis.
C'est un énorme sujet à l'heure actuelle. Faciliter le vote par correspondance à cause de l'épidémie, pour des raisons qui semblent assez évidentes. Donald Trump et le camp républicain semblent penser que plus il y a de gens qui votent, moins c'est bon pour eux. Qu'il y aura au fond des gens qui iront voter, qui d'habitude ne vont pas forcément faire la queue toute la journée, parce que c'est long, c'est une journée de travail, etc.
Une grosse participation, voilà. ça ne garantit pas les chances de Donald Trump.
Ils pensent que ça les menace. Parce que les gens qui ont des petits salaires, qui vont pas prendre une journée de congé pour aller voter, les gens qui ont peur parce qu'il y a les contrôles d'identité qui peuvent se faire très tatillons, etc. Donc plutôt les gens issus des minorités, il faut bien le dire, préféreront peut-être voter par correspondance. Et là, le calcul de Donald Trump et des Républicains est que ça pourrait lui être nuisible. Donc imaginez, c'est un scénario, hein, que le soir du 3 novembre, on dise... La tendance, c'est Donald Trump a gagné. On continue à compter les votes par correspondance parce qu'on ne peut commencer à compter que le soir du 3 novembre. Et qu'au bout de quelques jours, on dit, ah ben, il y a X votes par correspondance qui vont dans l'autre sens et Donald Trump a perdu. Je pense que les partisans de Donald Trump les plus virulents prendraient ça très très mal et beaucoup sont armés.
un dernier mot sur Barack Obama qui est devenu la machine à cash aux côtés de Joe Biden.
Il fait ça bien.
Qui a le plus d'argent dans cette campagne entre les démocrates et les républicains
pour faire très campagne? Nettement les républicains. Ils sont partis en début de campagne avec un trésor de guerre de plus de 800 millions. Et pendant longtemps, ça n'a pas fonctionné, disons, pour Joe Biden. Un petit peu, l'argent rentrait un petit peu.
Barack Obama vient de lui donner un soutien au moment des levées de fonds.
Et là, tout d'un coup, ça a l'air de vraiment se déclencher. Et en avril-mai, on n'a pas les chiffres de juin, les démocrates ont récolté davantage d'argent que les républicains. Donc ça veut dire qu'il y a un frémissement, je ne sais pas si c'est d'enthousiasme ou de panique, mais en tout cas qui a l'air de se déclencher du côté de Joe Biden.
Merci beaucoup Nicole Bacharan, venue nous éclairer sur cette mauvaise séquence que traverse Donald Trump à 4 mois, un peu plus de 4 mois, le 3 novembre de cette élection présidentielle. Je vais rappeler le titre de votre livre qui est sorti l'an dernier, ça s'appelle « Le monde selon Trump », publié aux éditions Taillandier. Merci beaucoup.
Merci à vous.
Et
merci
bonne journée. Il est 8h39 à suivre le temps.